professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Que veut dire la valeur du savoir ? Dans le domaine de la recherche et de la connaissance, pourquoi distingue-t-on conception relationnelle et conception internaliste ? Pourquoi l'enseignement apparaît-il fortement localisé et pourquoi la recherche ne connaît-elle pas de mur ? Pourquoi voit-on s'affirmer l'approche collective, la crowd science, en franglais crowd science aujourd'hui ? Nous débutons ce matin une nouvelle série consacrée à la production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche avec Pierre-Michel Minguer, titulaire de la chaire sociologie du travail créateur. Ce spécialiste du monde du travail qui a longtemps fait ses recherches au sein du CNRS et de l'EHESS rappelle que dès 1962, les experts parlent d'économie du savoir. Le sociologue relève les truismes qui entourent l'économie de l'innovation et son lien avec le monde académique dans un contexte de compétition internationale. Il nous présentera d'ailleurs le mot « académique » au sens américain du terme, c'est-à-dire pour le couple enseignement-recherche. Il rappelle aussi le rôle de l'OCDE sur les liens éducation-recherche et capital humain. Il évoque également les débats et les controverses autour de la conversion des universités à l'entrepreneuriat, alors que le savoir a pu être conçu originellement comme un bien public. Ici, l'approche est résolument internationale et le modèle américain est sollicité et interrogé, tout comme la question des environnements stimulants et celle des inégalités, mais aussi celle de l'obsolescence des savoirs avec le modèle de l'innovation. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Pierre-Michel Minguer sur l'approche du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche, le 23 janvier 2015.
Les métiers et les mondes du savoir ont un certain nombre de propriétés qui relèvent notamment de ce que j'appelle un travail créateur, travail inventif, mais aussi un travail de transmission. Et donc je vais m'y intéresser. Ce sont des mondes qui sont aujourd'hui très sollicités. Je vais l'exposer dans le premier cours, l'introduction à ce cours que je vais faire maintenant, parce qu'il s'agit de métiers ou de professions et d'activités qui sont au cœur de ce qu'on appelle une économie et une société du savoir et de la connaissance. Nous verrons ce que veut dire ce genre d'expression. Et donc, il faut s'en réjouir. L'innovation, l'invention, la création, la créativité sont des valeurs cardinales de nos sociétés contemporaines. Mais la compétition fait rage, elle est mondiale. Et les enjeux sont considérables, les réformes se succèdent partout, il y a beaucoup de comparaisons entre les pays sur tous ces sujets. Une matière progressivement apparaît de travaux en Europe qui s'intéressent beaucoup plus à ce domaine qu'auparavant, depuis une quinzaine d'années. Les États-Unis ont été beaucoup plus en avance, en quelque sorte, dans la recherche sur ces questions-là, notamment en raison des propriétés de leur système d'enseignement et de recherche. qui est un système assez différent du nôtre, beaucoup plus stratifié. Et donc, il y a deux manières de considérer le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche. Il y a une conception, disons, internaliste et une conception relationnelle. La conception internaliste va en faire un système d'activité qui est intégré et assez fortement autonome. Autonome au sens professionnel et pas au sens strictement politique. La loi sur l'autonomie des universités est une construction, mais l'activité des universités depuis longtemps et des universitaires est dotée d'une forte autonomie ou d'un fort sens de l'autogouvernement des carrières, des valeurs, de l'éthique et des choix d'enseignement et de recherche. Et ce système, il lui faut évidemment des moyens humains, des personnels, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, des équipements, des financements dédiés à ces organisations et face à cette offre de moyens humains et matériels, une demande de connaissances fondamentales et appliquées et une demande de services éducatifs, celle-ci étant émise évidemment par les étudiants et les familles. Il lui faut des financements qui sont issus des autorités publiques et aussi des financements qui peuvent être privés, par exemple les contributions des destinataires des services éducatifs, les étudiants et leurs familles, ou des anciens qui sont devenus des alumni, qui financent les fondations. C'est évidemment très courant là où l'enseignement n'est pas gratuit, n'est pas à prix réduit. Et il y a des financements qui sont issus de l'exploitation des connaissances produites, des brevets notamment, et issus des collaborations entre entreprises et universités. Il faut ici que je précise que les disciplines et les mondes de l'université de la recherche sont extraordinairement différents en fonction des disciplines enseignées et des disciplines de la recherche. Les problèmes sont très variables d'une discipline à l'autre et on en aura un aperçu assez spectaculaire à la fin du cours lorsque nous vous présenterons les dynamiques de carrière dans ces différents mondes, mais les problèmes ne se posent évidemment pas de la même manière dans les sciences humaines et sociales où la mobilisation des moyens peut être certes nécessaire, mais qui n'a rien à voir avec l'utilisation de grands équipements en astronomie, l'utilisation de grands équipements en physique, ou la mutualisation de grands équipements en physique, les moyens de recherche nécessaires à la recherche biomédicale. La recherche biomédicale est celle qui a connu la croissance la plus forte en termes notamment de mètres carrés de recherche. C'est un résultat que fournit une collègue américaine, Paula Stefan, dans un livre qui s'appelle « The Economics of Science ». Et donc, je tiens à garder ce point dans votre mémoire parce que quand on parle de la science ou de l'enseignement, évidemment, ce vocabulaire est en quelque sorte masque et absorbe toute la différenciation interne. Elle apparaîtra de multiples manières au cours de ce cycle de cours, mais je veux le préciser d'emblée et j'aurai évidemment à le redire assez souvent en donnant les preuves en quelque sorte. Donc, pour assurer, pour fonctionner ce monde, doit évidemment assurer ses missions principales d'enseignement et de recherche, soit de façon couplée et intégrée. C'est ce qu'on appelle des universités de recherche dans un vocabulaire qui est au départ américain, qui est devenu en partie européen. Il existe une ligue européenne des universités de recherche qui s'est autoproclamée ligue des universités de recherche et à laquelle adhèrent un certain nombre d'universités. Ou alors, on peut prendre en charge principalement ou exclusivement l'une seulement de ces missions. Il existe tout un ensemble d'établissements qui ont une faible capacité de recherche ou qui sont classés comme voués d'abord à l'enseignement, long ou court, à vocation générale ou professionnelle. Et de même, il existe des établissements de recherche, instituts, centres, laboratoires, dans beaucoup de pays, mais dans certains pays, le dualisme est fondamental. Il l'est ainsi en France. Il existe des grands organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, le CEA, qui sont voués principalement ou exclusivement à la recherche, avec les enjeux de carrière et de dissymétrie des carrières qui vont avec. Évidemment, J'en ai fait l'expérience moi-même, puisque j'ai été longtemps chercheur au CNRS et en même temps, latéralement, enseignant à l'École des hautes études, mais pour un enseignement de doctorat. Donc ça n'était pas une position d'universitaire. Alors, une catégorie fonctionnelle des activités nous dit, et c'est la citation que je donne ici de Burton Clark, qui est un universitaire américain connu pour ses travaux et aussi ses recommandations à l'égard du couplage des activités d'enseignement et de recherche. Les États-Unis sont connus pour un débat lancinant sur comment être bienveillant à l'égard de la liaison entre enseignement et recherche, ou au contraire, comment traiter la menace de découplement de ces deux activités. Et Burton Clark écrit, dans un ouvrage sur les perspectives sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur comme système organisé se définit ainsi: la connaissance est la substance commune impliquée dans toutes les activités du système. Voilà qui fait l'union, en quelque sorte, et le socle de ce monde. Ce sont des travailleurs de la connaissance, comme on peut les appeler. La recherche la crée, l'érudition, scholarship, la préserve, la raffine et la modifie, l'enseignement et les activités de service et d'administration liées à l'organisation des activités d'enseignement et au fonctionnement des institutions disséminent la connaissance. Voilà l'argument. Le problème qui surgit, c'est comment associer des différents actes de travail que cette catégorisation fonctionnelle distingue. La complémentarité entre enseignement et recherche est loin d'être aussi simple que le prescrit le statut des enseignants-chercheurs français: 50% d'activité en enseignement, 50% en recherche. Pour ne signaler qu'une des différences immédiates entre les deux types d'activités, et en la formulant en termes de savoir, le savoir mis en œuvre et produit par l'activité de recherche, et plus largement le travail scientifique, doivent être explicités, codifiés, publiés, évalués, éventuellement répliqués, pour être absorbés, transmis, transformés, recombinés. Voilà du côté recherche. On a pour ça des publications, des bases de données, un corpus de théories, de règles, d'expérimentation, une axiomatique des différentes disciplines, des méthodologies, un accès transparent ou ouvert aux protocoles, aux contenus et aux résultats du travail, notamment pour lutter contre la fraude ou pour répliquer les expériences et les résultats. Bien sûr, on a un accès aux résultats du travail. C'est le but, c'est la publication la plus large et la plus consultée possible. C'est le souhait de chacun. Et l'accès de plus en plus aux bases de données mêmes qui ont servi à fabriquer ces données. Tout ça fait partie des régulations qui font du travail comme de la concurrence dans l'activité de recherche un monde ouvert, un monde où la compétition agit comme une force régulatrice et évaluatrice dotée d'un pouvoir considérable. On ne se fait crédit qu'à condition de vérifier les choses et de s'assurer que les activités sont bien menées. Et on peut le faire à l'échelle aujourd'hui planétaire, avec les moyens dont nous disposons, les moyens des technologies dont nous disposons. Les résultats de cette ouverture et de cette activité qui part de bases communes et universelles sont évidemment des résultats qui engendrent des différences de production et de réputation qui sont plus que proportionnelles à la différence de qualité entre les compétiteurs au sein de ce milieu de la recherche. Donc la recherche, elle ne connaît pas de mur. C'est un point important. Elle n'existe et elle n'a de valeur qu'à proportion de son ouverture, de la visibilité de la production et de l'appropriation la plus large possible des résultats. L'enseignement est une activité qui a des caractéristiques assez profondément inverses. L'enseignement est une activité localisée, fortement contextualisée, une activité de service avec des producteurs et des usagers destinataires. Les facteurs et les mécanismes qui permettent d'expliquer son efficacité et la variation de son efficacité et sa valeur exacte, quelle que soit la manière dont on définit la valeur d'une activité d'enseignement, les facteurs donc et les mécanismes de cette analyse de l'efficacité et de la valeur sont multiples. Le savoir et le savoir-faire mis en œuvre par l'enseignement, doivent être entendus comme la capacité d'assurer une transmission et l'appropriation la plus efficace et la plus complète possible des connaissances détenues par l'enseignant. Mais on peut les comprendre aussi comme le produit d'une interaction et d'un cycle d'échange qui n'obéissent pas strictement à une asymétrie pure entre le sachant, qui est l'enseignant, et l'apprenant, qui est l'étudiant. L'étudiant détient lui-même des savoirs, il a des comportements d'adhésion ou de non-adhésion à la situation de transmission et d'appropriation des savoirs. Les étudiants entre eux-mêmes échangent et produisent des savoirs, et cette dimension-là a une visibilité croissante. La valeur de ces savoirs et la dynamique de leur formation sont extrêmement variables. On connaît le terme sous lequel cette dimension-là est captée, c'est ce qu'on appelle les effets de pair. Qu'est-ce que les étudiants entre eux produisent en fonction de leurs caractéristiques et de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et cette dimension de la contribution et des facteurs qui agissent sur l'appropriation des savoirs par les étudiants, cette dimension-là agit considérablement sur la qualité du service d'enseignement. Régulièrement, nous avons des publications de taux d'abandon des études, taux d'évaporation des effectifs en première, en deuxième, en troisième année de licence. Dans les classements internationaux des collèges, au sens anglo-américain du terme, ou des universités, un des critères qui est choisi, c'est le taux de drop-out, d'évaporation et d'abandon des études. Dans la partie supérieure de la hiérarchie des établissements américains, l'abandon des études qui sont en outre payantes dans les universités privées de haut niveau, qui sont très coûteuses, cet abandon-là est considéré comme un dysfonctionnement majeur du système. Ça n'est pas une sorte de loi naturelle d'autosélection par tâtonnement et mauvais appariement entre les étudiants et les établissements. C'est considéré comme un échec de l'organisation. Au total, tout à la fois la variabilité des conditions de réalisation du travail de production d'un service d'enseignement et la codifiabilité imparfaite des savoirs propres qui sont requis par l'acte d'enseignement, tout ceci confère à l'exercice de ce rôle d'enseignant, au savoir qu'il requiert et à l'imparfaite explicitation des relations entre la production et le résultat, des caractéristiques profondément différentes de celles du travail de recherche. Cette question du couplage ou du découplage sera au cœur de mon cours. Elle a une dimension historique longue, une dimension organisationnelle et une dimension professionnelle. Et les transformations actuelles des carrières et des formes de concurrence au sein de l'enseignement supérieur, de la recherche, ne font que révéler un peu plus la tension entre ces deux activités. Une deuxième perspective sur l'enseignement supérieur et la recherche peut être adoptée à partir de l'immersion des activités d'enseignement et de recherche dans un ensemble plus large, comme on le voit depuis une vingtaine d'années, que le thème et les recommandations, notamment politiques ou en termes de politique publique ou de politique industrielle liées à l'émergence d'une société de la connaissance et à une économie de l'innovation ou à une économie knowledge-based, comme on dit, sont apparues. En 2014, dans un rapport pour la Commission européenne sur la contribution des universités à l'innovation, deux collègues, Reinhild Wegelers et Elena Del Rey, qui travaillent à l'université de Louvain, je crois, ont écrit ceci, alors que l'enseignement et la recherche sont le premier et le second stream, flux d'activités des universités, un troisième flux d'activités, et la contribution des universités à la société par le transfert de leur savoir-faire. Ce troisième flux d'activités s'appuie sur les deux premiers, mais il est vu aujourd'hui comme de plus en plus important et distinctif sur sa base propre. Et il mérite, il exige ou il requiert des politiques et des ressources spécifiques pour son fonctionnement efficace. Cette ligne d'activité est le sujet de ce rapport. Est-ce que les universités européennes, à travers ce troisième flux d'activités, sont capables de répondre aux attentes et aux défis de la société pour exercer leur rôle d'engines, de moteurs de la croissance et de l'innovation et, en quelque sorte, donner leur plein potentiel, exprimer leur plein potentiel. Après tout, s'il y a bien un endroit où le savoir est produit, c'est dans ces endroits-là. Et donc, le transfert du savoir et sa conversion en un flux et un carburant de l'innovation et de la croissance sont évidemment des questions majeures. Mais ajoute-t-elle, sans porter atteinte, jeopardizing, leur mission principale d'enseignement et de recherche fondamentale. Voilà bien la question. C'est cette formulation-là, dans son caractère élémentaire, désigne tout simplement le fait que l'enseignement et la recherche sont immergés dans une société et une économie de la connaissance et de l'innovation. Et qu'on n'a affaire non plus simplement à un couple, mais à un triangle. Le couple était enseignement-recherche, le triangle c'est enseignement-recherche, transfert par immersion dans le monde économique et social. Alors, j'ai parlé de société et d'économie de la connaissance. Il est devenu aussi courant d'employer dans la société, dans les politiques publiques, ce vocabulaire à partir des années 2000, que de rappeler aussi dans les milieux académiques, qui ne s'en privent jamais, que c'est un terme, un mot passe-partout, un buzzword, qui est déjà bien ancien. Un collègue canadien, Benoît Godin, publié un article sur ce sujet de la diffusion du vocabulaire de société de la connaissance et d'économie de la connaissance en 2007. Et il s'appuie notamment sur une liste de labels qui ont circulé depuis les années 50 pour désigner les grandes transformations du monde social. C'est extrait d'un livre de Benninger qui s'appelle « The Control Revolution », qui est paru à Harvard University Press en 1986. On pourrait actualiser ce tableau des étiquettes que construit Benninger dans son livre. Je vais vous en montrer un certain nombre. Vous y reconnaîtrez beaucoup de termes qui circulent. « Lonely crowd », la foule solitaire, c'était David Riesman en 1950. Nous avons affaire à la nouvelle classe sociale, Goldner 1957, à la révolution de l'éducation en 1959, Peter Drucker, qui est un consultant très connu, qui a fait fortune, la révolution éducative en 1959, la fin la société post-capitaliste et la fin des idéologies en 1960, la société industrielle, et qu'est-ce qu'on voit apparaître en 1962 ? L'économie du savoir. C'est Fritz Machloup, un économiste. Le terme sera repris par le même Peter Drucker, qui est décidément aux aguets. Et puis, il y en a bien d'autres, la nouvelle classe ouvrière, le village mondial de McLuhan en 1964. Ces termes qui sont entrés dans la grande lessiveuse des étiquettes et des labels de la transformation des sociétés. Et je pourrais en citer bien d'autres. L'âge de l'information, 1971, la société post-industrielle, c'est un terme de Daniel Bell et d'Alain Touraine dans les années 70, au début des années 70, les limites de la croissance, en 1972, le terme revient de manière cyclique et aujourd'hui on raisonne sans arrêt en termes de société sans croissance, la troisième révolution industrielle, 75, enfin bon. Voilà, et donc je donne toute cette série de termes et de labels pour vous dire que la société de la connaissance figure dans ce paquet-là dès 1962. C'est tout à fait spectaculaire. Alors, encore un autre moyen de vous dire que ce mot d'économie de la connaissance est régulièrement à la fois avancé et critiqué. Deux économistes connus pour leurs travaux sur ces sujets, la technologie, la science et l'innovation, Partha Dasgupta et Paul David, ont écrit en 1994 dire que la croissance économique dans le monde moderne a été fondée sur l'exploitation de la connaissance scientifique, c'est un truisme. Et dire que ce qui se passe dans la sphère des activités humaines identifiées comme la République de la science a connu une croissance trop importante pour qu'on la laisse loin des préoccupations sociales est aussi une formule de sens commun. Donc, on est d'accord, le sujet est là, il est régulièrement avancé, et en même temps, c'est une formule assez basique. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un argument qui est non seulement lié à de nouvelles théories de la croissance qui sont apparues dans les années 80 et qui sont devenues très influentes, ce qu'on appelle les théories de la croissance endogène, non pas par des chocs technologiques simplement, mais par l'appropriation par l'intelligence humaine de ces technologies et par la contamination des intelligences les unes par les autres pour entretenir le mécanisme d'innovation. En quelque sorte, l'intelligence est un bien qui se pollinise aisément. Et c'est peut-être, comme je l'ai écrit avec d'autres, c'est probablement la seule ressource totalement inépuisable tant que des individus humains sont sur Terre et peut-être même éventuellement dans quelques décennies ou même avant, quand les robots auront fini d'être construits comme des machines à apprendre et feront le travail de production de connaissances à travers leur capacité d'apprendre et de transformer l'apprentissage en production. C'est aussi un argument politique qui a donné lieu à l'émergence de politiques nationales de soutien à l'innovation. Un des organismes qui a joué un rôle considérable en ce sens, c'est l'OCDE. Dans les années 90, l'OCDE a produit des concepts, des outils conceptuels et statistiques de ces politiques. En quelque sorte, l'argument, c'est on a accordé beaucoup d'importance au capital et pas au capital incorporé dans des machines, des équipements. On n'a pas assez accordé d'importance au capital humain. À cette espèce toute particulière de capital humain qu'est la connaissance et le savoir. Et donc, l'économie doit être, dit l'OCDE, et disent les experts qui ont travaillé dans l'environnement de l'OCDE, c'est le sujet de l'article de Benoît Godin, l'économie doit être enracinée beaucoup plus fortement et directement dans la production, la distribution et l'utilisation du savoir que jamais auparavant. D'où des injonctions à l'investissement dans la connaissance, et la constitution de tout un ensemble d'indicateurs et aussi une reconfiguration de l'économie en termes sectoriels. Voici un exemple de reconfiguration de l'économie en termes sectoriels que je tire d'une publication de l'OCDE en 1999, une économie fondée sur la connaissance. Vous en avez eu ensuite les répercussions dans toutes sortes d'initiatives européennes, l'agenda de Lisbonne et bien d'autres dans les années 2000. Mais voilà que l'éducation et le capital humain figurent évidemment dans les indicateurs qui permettent de mesurer l'expansion ou le sous-développement d'une économie basée sur la connaissance. La recherche fondamentale y figure aussi, mais la recherche et le développement industriel et dans le secteur privé, la recherche dans les industries manufacturières, dans les services, l'innovation ou la capacité d'innovation, le capital risque qui s'investit dans les entreprises, y figure aussi. Et ensuite viennent un décompte des moyens, des technologies, de l'information et de la communication, des politiques en termes d'investissement dans la science et la technologie et les phénomènes de globalisation. Enfin, la mesure des outputs, de ce qui est produit et de leur impact. La publication scientifique, les brevets, les innovations, la productivité du travail dans ces secteurs-là, les partages de connaissances le commerce de la haute technologie et l'impact de l'échange ou du commerce des technologies sur la balance des paiements. Voilà ce type de conversion ou de transformation d'un terme en un outil, en des indicateurs et en des politiques publiques transformation ou d'expansion de la société de la connaissance. Alors, ceci conclut ma présentation du deuxième versant de cette conception de l'enseignement de la recherche, immergé dans un système plus large que lui. Il en tire une légitimité supérieure Après tout, il est heureux que l'enseignement, l'éducation, la production de connaissances, le savoir figurent au premier rang des impératifs d'une société qui décrit l'innovation comme son ressort majeur, mais aussi la compétition autour de l'innovation comme un ressort essentiel de développement ou d'inégalité de développement des sociétés. Il est donc heureux que les travailleurs du savoir s'y retrouvent, mais il est peut-être aussi problématique de se dire ils sont en compagnie de toutes sortes d'autres professionnels et ils sont maintenant soumis aussi à tout un ensemble de mesures, de métrologies, d'indications de performance qui vont modifier l'espace de comparaison et de référence. Donc voilà un problème intéressant et sérieux qui a donné lieu à un débat très abondant dans le monde académique sur ce qu'on appelle « academic entrepreneurialism », l'entrepreneurialisme académique, autrement dit la conversion des universités à l'entrepreneuriat. L'un des effets inattendus, ou peut-être pas si inattendu que ça, l'un des effets de cette immersion de l'enseignement et de la recherche dans le monde, dans les systèmes d'innovation, c'est en quelque sorte de légitimer davantage le lien entre la connaissance et son rendement économique, son efficacité économique, sa contribution économique et sociale. Vu depuis la première perspective qu'on pourrait dire grosso modo mertonienne, une sorte de système de règles et de conduite et de comportement autonome et autogouverné et autorégulé, la production de connaissances et la transmission du savoir sont des activités donc autonomes, organisées comme un secteur distinct, avec des frontières, un principe d'autogouvernement et un contrôle par les professionnels et leurs représentants. Et dans cette perspective-là, le savoir, c'est un actif, c'est on dirait un asset en anglais. Il est produit par la recherche, il est incorporé par les individus dans l'enseignement, et moyennant la combinaison classique d'efforts, de ressources cognitives, sociales, financières, comportementales, les individus peuvent faire de ce savoir le socle des compétences qu'ils engagent dans des activités productives, rémunérées, au long d'une trajectoire professionnelle. C'est toute la conception classique et dominante du travail académique qui est ancrée dans cette perspective-là. Autonomie de la production, incorporation du savoir et utilisation par les individus de ce savoir à des fins qui sont celles de l'engagement dans un monde de travail. Vu depuis la deuxième perspective que j'ai indiquée ensuite, la production et la transmission du savoir deviennent deux des trois pointes d'un triangle ou deux des trois composants de ce qu'on a appelé une triple hélice, la troisième étant l'environnement extra-académique qui produit, consomme, achète, commercialise, transforme du savoir et qui fait donc valoir l'impératif d'innovation comme le ressort de la croissance et de la compétitivité des économies et des sociétés. La question, c'est qu'arrive-t-il dans cette deuxième perspective de l'enseignement et de la recherche ? Le décloisonnement du travail académique varie évidemment beaucoup selon les différents pays, selon les systèmes institutionnels, selon les types d'établissements, selon les disciplines d'enseignement et de recherche qui sont concernées. Ici même au collège, je ne vais pas parler de ces sujets-là du tout dans les mêmes termes à Thomas Römer qui travaille sur le monde biblique et les études bibliques ou à Marc Fontcave ou Clément Sanchez qui sont chimistes et qui ont des liens constants avec l'industrie, qui ont des partenariats avec des chercheurs du monde industriel, etc., tout en adhérant profondément à une universalité du savoir académique. Les choses sont extrêmement différentes, évidemment. L'attitude à l'égard de ce décloisonnement varie elle-même beaucoup, l'attitude des académiques eux-mêmes varie beaucoup et peut être située sur un axe qui va d'une culture de la production et de la transmission du savoir comme bien public, librement appropriable dans une éthique de l'ouverture complète de ce que c'est que la production de savoir, jusqu'à une conception largement entrepreneuriale, comme je viens de le dire, du monde académique, dont on a fait la critique dans de très nombreuses publications. C'est un flux continue de l'ouvrage qui l'indique sur le thème des gains et des dégâts de la liaison croissante entre recherche, industrie et enseignement. L'enseignement et la production du savoir et les innovations sont certainement parmi les dimensions les plus anciennes, mais aussi les plus saillantes de la mondialisation.
Le Collège de France et France Culture vous présente la production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche par le sociologue Pierre-Michel Menger.
Pour l'instant, je voudrais simplement montrer que le savoir qui est produit et qui circule dans le monde social a un certain nombre de caractéristiques qui interdisent d'endosser simplement cette distinction entre quelque chose qui est intrinsèquement ouvert, public et librement appropriable et quelque chose qui est au contraire exploitable et privatisable avec une intensité accrue. Pour y parvenir, il y a deux manières de procéder. Une première manière que je ne vais faire ici que mentionner consiste à faire l'inventaire des nouvelles manières de produire le travail scientifique dans un régime qui n'est ni associé au paradigme mertonien de la science, ni à celui de la compétition académico-entrepreneuriale dans la production d'innovation. Ça consiste à mettre en avant des dimensions qui sont plus ouvertement collaboratives, citoyennes, en réseau, de l'activité scientifique. C'est ce qu'on appelle la crowd science. Les publications commencent à affluer sur ce thème-là. On parle de crowdfunding, on parle de crowd, de toutes sortes de crowd, ceci ou cela, mais voilà que la crowd science apparaît et commence à intéresser, y compris évidemment, les chercheurs. C'est aussi un thème qui a été très fortement sollicité du côté de la médecine pour légitimer les associations de patients en tant qu'elles détiennent des savoirs sur la maladie, sur les soins, sur les traitements, sur le travail clinique, qui est un élément essentiel du savoir. Et ce savoir-là peut être mobilisé avec grand profit du moment qu'on casse la situation d'asymétrie radicale entre le médecin détenteur du savoir ou le chercheur détenteur du savoir fondamental et le patient qui ne sait pas grand-chose et qui ne fait qu'en appeler au savoir du médecin et qui n'a qu'à se soumettre en quelque sorte à la situation dans cette asymétrie radicale. Les choses ont beaucoup changé, notamment à la faveur de grandes maladies tels que le sida ou le cancer ou d'autres, ou des maladies génétiques. Mais je ne vais pas plus loin pour l'instant. Alors, au fond, les deux conceptions dont je veux parler maintenant, qui n'appartiennent pas au régime mertonien ni au régime académico-entrepreneurial, elles ont en commun de considérer que la production de savoir dans la recherche fondamentale et appliquée par des professionnels dûment mandatés et spécialisés ne correspond en fait qu'à une partie de la production et de l'échange de savoir qui sont incorporables dans la vie sociale et économique. Un des moyens classiques de le faire, c'est de parler d'information. Mais c'est un mot qui est complexe. L'information... Cela dit, il reçoit une actualité extrêmement visible aujourd'hui parce que l'information, elle est traitée de manière massive, les fameuses big data. Et c'est devenu un nouveau gisement absolument incroyable, à la valeur économique très élevée. Mais il existe une autre manière de qualifier ces savoirs qui, en quelque sorte, vise à donner au savoir une assise plus large que celle d'une activité spécialisée et éventuellement cumulative. L'argument déjà ancien qui a mis ça en évidence concernait cette accumulation de savoir et de savoir-faire par l'expérience des individus et donc les multiples formes et contenus d'apprentissage qui ne sont pas directement codifiés, ni exploités, ni toujours valorisés et qui sont pourtant à l'origine de conceptions nouvelles et du travail et des organisations et aussi des revendications des individus au travail à travers les thèmes des habiletés, des savoirs pratiques, mais aussi au plan de l'organisation à travers ce vocabulaire des organisations apprenantes, des learning organizations. En quelque sorte, on touche là un mécanisme profond qui est tout simplement de dire que agir dans un certain nombre de conditions qui peuvent être caractérisées et sélectionnées pour être valorisées, agir, c'est apprendre. C'est un des grands thèmes, d'ailleurs, du pragmatisme américain. Apprendre par la philosophie pragmatique américaine de John Dewey et de bien d'autres. Apprendre, c'est apprendre par l'essai-erreur, par l'usage, par les boucles de rétroaction qui sélectionnent et amplifient les bénéfices de l'action réussie. Si vous en voulez une illustration, en l'extrapolant au maximum, c'est l'argument des 10 000 heures pour devenir un expert virtuose dans une activité sans avoir, a priori, un génie particulier pour cette activité. C'est ce thème qui est très connu et très sollicité aussi. C'est les travaux de Erickson et de ses collègues. Alors, on va dire là qu'il s'agit de savoir pratique et non pas théorique. Donc, on réserverait le théorique à la spécialisation et le pratique aussi à ces transformations que réalisent les individus. Mais l'attention qui est portée à ces savoirs, elle augmente quand le recours aux technologies d'échange en réseau, des informations et des expériences individuelles autour de ces savoirs pratiques ou autour de ce qu'on appelle un capital d'expérience, c'est-à-dire de ces connaissances non codifiées, quand ces échanges facilitent et stimulent la communication interindividuelle autour de ces savoirs pratiques et qu'elles en augmentent la visibilité et l'importance. C'est exactement le thème de cette fameuse crowd science. Elle vient de là, tout comme l'argument depuis longtemps avancé de la mobilisation des savoirs donc, dont j'ai parlé, détenus par les patients, qui a pu modifier cette asymétrie radicale entre médecins et malades. Alors, cet argument-là, il n'est pas nouveau. Dans n'importe quelle, ce qu'on appelle une équation Mincerienne, c'est-à-dire une analyse des fonctions de gain, comment est-ce qu'on explique les différences de salaire et le profil salarial d'une trajectoire individuelle de travailleurs. Dans n'importe quelle équation de gain dite Mincerienne qui cherche à expliquer le salaire par des facteurs tels que l'éducation et des caractéristiques individuelles, une des composantes essentielles, c'est l'accumulation d'expériences. Elle est maximisée, évidemment, dans les métiers qualifiés. C'est ce qu'on peut appeler, d'un mot que j'aime beaucoup de citer de Sherwin Rosen, le travail, ou le métier, plus exactement, c'est un tight package of work and learning. C'est un paquet bien ficelé de travail et d'apprentissage. Autrement dit, la valeur des actes de travail se mesure à leur valeur formatrice ou apprenante. Mais cet argument-là connaît un regain d'intérêt dès qu'on s'intéresse à la complémentarité ou à la substitution éventuellement entre le travail humain et les robots. C'est l'actualité croissante, les robots, c'est-à-dire les machines apprenantes. Et dès qu'on s'intéresse corrélativement à la vitesse d'obsolescence des savoirs et des moyens qu'ont les individus pour remédier à cette obsolescence, les compétences durent moins longtemps qu'avant, les savoirs sont plus vite déclassés qu'avant. Autrement dit, aux moyens dont disposent les individus pour entretenir leur capital humain. Les actes de travail, l'environnement de travail et son organisation peuvent évidemment être, en quelque sorte, des inducteurs, générateurs de savoir, sous certaines conditions. Cet argument, évidemment, s'applique davantage au travail faiblement routinier et qualifié qu'à d'autres types de travail. Alors, ici intervient une dimension, un deuxième point sur lequel je voudrais m'attarder, parce qu'il est très suggestif. Il concerne la dimension d'interaction entre les individus qui est génératrice de gains de connaissances et de gains de productivité dans tout type de travail, mais d'abord dans le travail qualifié, et dans le travail scientifique aussi. Et c'est le thème de la contribution de la formation de la main-d'œuvre à la croissance économique, mais aussi le problème de la divergence croissante entre la relation entre formation et salaire qu'on observe. Le développement des investissements publics et privés dans la formation, dans la production de connaissances et dans l'innovation, ce développement, il a deux caractéristiques très contrastées. Il augmente le potentiel de croissance de l'économie à travers le lien avéré entre la production du savoir, l'innovation et le niveau de qualification de la main-d'œuvre, mais il augmente aussi les inégalités interindividuelles. Cette observation est massive, elle est couramment faite maintenant, et avec une précision, une acuité toujours plus vive depuis 15 ans, dans de nombreux travaux et par de multiples outils statistiques. Le capital humain aussi est générateur de différences et d'inégalités considérables et de plus en plus. Il est assez banal d'observer que la part des travailleurs qualifiés et très qualifiés s'est accrue avec l'expansion des systèmes d'éducation et d'enseignement supérieur, avec l'augmentation des emplois qualifiés à forte valeur ajoutée, notamment dans les services, et à travers l'enrichissement des emplois en connaissances requises et à travers le recours croissant à des technologies avancées qui sont complémentaires des compétences mises en œuvre. Ces rendements de l'éducation pour les individus, notamment diplômés de l'enseignement supérieur, sont tout à fait mesurables en termes de salaire, d'employabilité, de moindre risque d'exposition au chômage. Je voudrais aussi mentionner, mais pas pour le traiter directement, les autres dimensions qui sont liées au rendement de l'éducation, au rendement, le return en quelque sorte, ce qui est retiré d'une élévation des niveaux de formation des individus, ce sont ce qu'on appelle des gains sociaux, qu'ils soient privés ou publics. Des gains privés, c'est l'association entre niveau d'éducation et santé des individus ou longévité des individus, appétence culturelle, capital de relations sociales. Les individus très socialisés ont un niveau d'éducation supérieur aux autres, et on sait qu'un capital social est garant de relations sociales est garant d'un bien-être individuel et collectif plus élevé. Mais on peut évidemment évoquer aussi des gains publics, la défense, et c'est au cœur de notre actualité, la défense de la démocratie, la tolérance aux différences, ou le niveau d'engagement dans l'action volontaire pour des causes d'intérêt collectif. Tous ces éléments sont associés à l'investissement en formation et en éducation supérieure notamment. Je ne vais pas évoquer ces dimensions-là directement. Il existe de multiples tentatives de mesure de ces dimensions. Un livre qui est allé assez loin dans l'exercice, y compris pour les quantifier en dollars ou en équivalent monétaire, c'est un livre de Walter McMahon qui s'appelle « Higher Learning, Greater Good ». Enseignement supérieur bien plus grand. Je reviens à la dimension monétaire, à la dimension des gains salariaux liés à l'enseignement supérieur et aux écarts croissants. La leçon est assez simple. Une société qui investit dans le capital humain des individus au travail est une société où la richesse est créée, mais elle est captée plus que proportionnellement par ceux qui en détiennent davantage de ce capital de formation. Le résultat, évidemment, macroéconomique et macrosocial, c'est que l'élévation du niveau de formation moyen dans une société contribue directement à la croissance de son produit intérieur brut. Et le calcul des auteurs, c'est Kruger et Lindahl, c'est un papier de 2000, le calcul montre un gain entre 5 et 14% qui serait lié à l'addition d'une année supplémentaire de formation à la formation moyenne des individus. Si on leur ajoute une année supplémentaire de formation, on pourrait obtenir un gain de 5 à 14% selon les pays et les contextes dans le produit intérieur brut. Donc le résultat est absolument considérable et on comprend bien l'enjeu de ce que c'est que l'organisation d'un système de formation, ses responsabilités, mais aussi
la bonne conduite de l'opération de transformation d'un résultat désirable en une réalité effective, ce qui suppose évidemment toutes sortes de conditions. Je laisse de côté d'autres questions qui sont la signification qui est sous-jacente. Est-ce que ce qui est acquis dans la formation, c'est vraiment un capital de savoir qui va être transformé en des compétences productives, ce qui est la thèse de base, c'est de dire si j'acquiers des connaissances, elles vont me servir, elles vont être engagées dans des compétences de travail. Mais il y a d'autres thèses qui disent non, c'est simplement une manière de signaler qu'on a de la valeur et que peu importe ce qu'on apprend, du moment qu'on apprend suffisamment haut et même aussi de manière assez sélective, notamment dans des universités ou dans des écoles qui sélectionnent leur public, le simple fait d'être admis dans ces endroits-là et d'accumuler des expériences d'enseignement, une formation supérieure, signale ce que je vaux sur le marché du travail, c'est-à-dire signale que je suis capable de travailler, d'apprendre et d'avoir des comportements qui seront valorisés dans le monde du travail. Ce sont des thèses qui sont classiquement liées à l'idée d'augmenter l'argument de l'aptitude ou du talent par rapport à l'argument de la compétence ou du skill. C'est cet aspect-là qui est en jeu. Alors, dans ces aspects-là, j'ai dit l'enseignement et l'élévation du niveau de formation des individus contribuent à la croissance. Le problème, c'est toujours le problème de la causalité. Comme disent des collègues économistes, l'éducation et la formation sont à la fois la graine et la fleur de la croissance économique. Il y a un problème de circularité. Et évidemment, il ne suffit pas d'augmenter le niveau de formation dans une population pour obtenir des résultats magiques. Il y a d'autres facteurs qui jouent, qui sont favorables à la croissance ou à l'augmentation de la valeur du savoir. Je voudrais en venir à une conclusion intermédiaire. Il est rentable, premièrement, pour les individus comme pour la société, d'investir dans l'éducation, en salaire, en moindre risque de chômage, en potentiel de croissance. Mais deux, les rendements de l'éducation ont divergé. L'avantage des diplômés de l'enseignement supérieur s'est accru. La valeur du travail très qualifié a progressé beaucoup plus que celle du travail moyennement ou peu qualifié. Alors, il y a à ça un certain nombre d'explications pour comprendre pourquoi les choses ont divergé. Il y a d'abord des problèmes de composition de main-d'œuvre. On le voit dans d'autres travaux que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais en quelque sorte, l'âge et la composition des âges dans la main-d'œuvre et du niveau, du taux de formation des individus par âge agissent sur la divergence. Des jeunes très formés, plus formés qu'avant, vont évidemment faire modifier la distribution du rendement de l'éducation en termes de salaire. Une autre des explications porte sur la différence des rémunérations entre les travailleurs qui ont pourtant des caractéristiques assez similaires en termes de formation de diplôme, mais qui travaillent dans des métiers, des entreprises et des secteurs très variés. Et ici se loge notamment le rôle des changements technologiques et cet argument fameux de la complémentarité entre l'activité que j'exerce et les technologies de production que j'emploie. En d'autres termes, les technologies se diffusent à des rythmes variables dans les différents métiers, les différentes entreprises, et ces différences-là se convertissent en différences de revenus, en exposition en divergence entre les salaires d'individus qui ont pourtant des caractéristiques identiques. Le phénomène a été très étudié, il est maintenant bien attesté, c'est ce qu'on appelle des biais technologiques. L'innovation technologique avantage les travailleurs dotés de compétences qui sont complémentaires de ces technologies et c'est une des raisons de l'accroissement de la demande de travailleurs très qualifiés et aussi l'explication d'un avantage salarial élevé dans les secteurs à forte intensité d'innovation. Évidemment, c'est aussi un avantage pour les individus qui, quand ils sont détenteurs de telles qualifications, travaillent dans des organisations et des entreprises qui incorporent mieux et plus vite les technologies avancées et les produits récents de la recherche et du développement. Mais il y a une troisième explication, c'est l'écologie sociale du travail très qualifié ou, disons, l'écosystème d'une économie de l'innovation. Si le corrélat essentiel d'un travail qui est faiblement routinier, c'est son potentiel d'apprentissage, parce que ce travail-là a des actes plus variés, plus changeants, ce potentiel-là augmente en fonction de la qualité de l'environnement de travail et des équipes dans lesquelles vous travaillez. Des recherches se sont multipliées pour estimer notamment comment, dans les grands centres urbains ou métropolitains, la concentration des activités très qualifiées contribue à l'élévation de la productivité individuelle des travailleurs. Ils ont des caractéristiques qui peuvent être identiques, mais mis dans des milieux et des environnements différents, ils se comportent différemment. C'est le problème à expliquer, c'est le problème à identifier et à expliquer. C'est en raison de la densité et de la qualité des échanges et des interactions individuelles d'informations, d'idées, de projets et d'autres dimensions de l'interaction. Dans ces analyses, une attention particulière est accordée à la contribution propre des activités de recherche scientifique et technique à la qualité de ces environnements. L'argument maintenant bien connu de la recherche d'avantages cumulatifs que procure l'appariement d'un individu, par exemple d'un bon scientifique, avec des partenaires de travail de qualité élevée. On est plus productif quand on travaille avec des collègues qui sont eux-mêmes suffisamment malins et inventifs. Et ça, c'est un vecteur de polarisation et de stratification du système de travail qui est extrêmement puissant. Et il se trouve que cet argument des avantages cumulatifs, qui est une des grandes explications des inégalités, et qui est une explication qui a une propriété intéressante parce qu'elle est extrêmement dynamique et qu'elle peut nécessiter des écarts initiaux très faibles, mais qu'elle produit ensuite des écarts considérables avec le développement du système. Il se trouve que ces analyses-là, des avantages cumulatifs, sont très fortement liées à l'enquête sur les sciences, sur la recherche et développement, mais aussi d'ailleurs sur les arts.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche par le sociologue Pierre-Michel Minger le 23 janvier 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014. Son livre « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain » paru en 2009 a été publié en Point Seuil en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Pierre-Michel Minger son cours « La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche ». Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.